Qu'est-ce qu'elle va faire avec la peur?
C'est pas un sujet hors du contexte du champ politique.
Est complètement tombé en miettes.
Quelque chose, à mon avis, a changé.
Elle révélait des inégalités profondes.
Cette conversation mondiale.
La parole appartient moitié à celui qui l'a dit, moitié à celui qui l'écoute.
Pense-t-on à soi ou pense-t-on aux autres?
On ne connaît la santé que par la maladie.
Beaucoup de contradictions et de conflits.
Pose et réfléchir.
Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat, un temps du débat spécial comme tous les vendredis, une conversation mondiale sur le rétrécissement de notre univers en temps de Covid. À l'ordre du jour ce soir, notre univers a-t-il rétréci? Une à une, au printemps, les liaisons aériennes puis les frontières se sont fermées avant de rouvrir timidement, sous conditions. Parallèlement, chacun d'entre nous a fait l'expérience du confinement, du kilomètre autour de son domicile, des interdictions de déplacement, mais surtout de rencontres qui ont rendu plus flagrante que jamais l'idée que nos univers personnels, nos univers intérieurs sont nourris de nos rencontres extérieures. Michel Foucault, cité récemment dans Le Monde par Claire Marin, ne disait-il pas que nous vivons dans l'espace du dehors par lequel nous sommes attirés hors de nous-mêmes? Et le philosophe ajoutait, c'est un pluriel d'espace que nous avons perdu, disait Claire Marin. Ce pluriel, nos deux invités de ce soir le pratiquent quotidiennement. Barbara Cassin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe et philologue, vous êtes académicienne française et vous ne cessez de vous interroger sur la pluralité des langues, sur le Babel et sur l'après, mais aussi sur les maisons de sagesse. On en parlera avec vous dans un instant. Quant à Hans-Ulrich Obrist, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes organisateur d'expositions, directeur artistique de la Serpentine Galerie de Londres et vous travaillez quotidiennement, par exemple, avec à côté de vous l'œuvre d'Édouard Glissant, le penseur du tout-monde. On en parlera également. Barbara Cassin, vous dites dans votre dernier livre, qui est une petite merveille que je conseille à tous nos auditeurs, c'est un livre qui fait du bien, on n'en a pas beaucoup ces temps-ci et on a besoin de cela, qui s'intitule « Le bonheur, sa dent douce à la mort » et qui est une autobiographie philosophique, vous nous expliquerez peut-être ce que vous entendez par là tout à l'heure. Dans votre dernier livre, paru chez Fayard, vous rappelez quelque chose qui est assez connu, que la philosophie est fille de l'étonnement. Est-ce que vous avez été vous-même étonné par ce qui nous arrive depuis un an?
Oui, bien sûr, même si c'était prévisible dans les choses possibles, disons, et même si on s'attend à l'inattendu, comme dit Morin, bon, c'est même ce à quoi on s'attend. Donc, j'ai quand même été étonnée, bien sûr, par la rapidité de la mondialisation de ce petit truc qui a tout bougé dans le monde entier. Et ça, je ne m'y attendais pas comme ça. Autant je peux comprendre que, au fond, enfin, l'une des choses qui m'étonnait, par exemple, c'est que la France a arrêté de fumer assez vite, hein, en un an ou deux. La France s'est arrêtée de fumer. Mais que le monde s'arrête de, je sais pas, de communiquer
de circuler.
En présentiel, comme on ose dire, ouais. Ça, c'est nouveau. Et c'était inattendu.
Hans-Ulrich Obrist, vous qui courez le monde pour les travaux de, vous n'aimez pas commissaire d'exposition, organisateur d'exposition, comme on dit dans la langue anglaise, curator, vous avez été aussi arrêté en plein vol, pourrait-on dire, y compris les expositions que vous organisiez.
Oui, en fait, il y a eu à Londres, pendant des mois et des mois, la Serpentine a été fermée. Après, on a pu rouvrir rapidement avec une exposition de Jennifer Packer au mois d'octobre-novembre. Et là, depuis décembre, on est refermé. Mais il y a eu beaucoup de projets. On s'est réfléchi comment on pourrait créer des espaces, comment on pourrait créer des rencontres, non seulement sur les deux dimensions de l'écran. Donc, on a essayé avec différents projets de faire des projets participatoires, digitales. On a notamment réactivé ce projet Do It. Que j'avais commencé déjà dans les années 90 avec Christian Boltanski et Bertrand Lavier et qui a depuis évolué, très inspiré par Édouard Glissant. C'est un projet qui est lié à la mondialité et on a réactivé ce projet avec des instructions d'artistes que les gens peuvent réaliser chez soi. Donc, ouais. Une sorte de do-it-yourself.
Une façon de mode d'emploi à partir des œuvres et qui ont été créées par des artistes et que l'on peut tenter de refaire chez soi. Expliquez-nous tout de suite pourquoi la pensée d'Édouard Glissant et ce terme de mondialité qu'il utilisait, en même temps que celui de tout monde, vous paraît important pour réfléchir à ce qui est en train de nous arriver et pour vous faire réfléchir en tant que créateur d'exposition. Quelle est la différence entre mondialité et mondialisation, par exemple?
Oui, pendant les années que j'ai vécu à Paris, quand j'étais curateur au Musée d'art moderne de la ville de Paris, c'était entre 93 peut-être et 2006, j'avais cette chance extraordinaire de rencontrer Édouard Glissant très régulièrement. Et j'ai commencé le rituel de lire Édouard Glissant tous les jours quand je me réveille. Et donc, un peu toutes les expositions que j'ai faites étaient inspirées par ces idées, par l'idée de l'archipel et surtout l'idée de la mondialité. Et comme Glissant a dit, il m'a toujours expliqué que nous vivons un monde d'une globalisation violente, extrême. C'est pas la première fois qu'il y a une globalisation, mais c'est une fueled by technology, avec la technologie, une globalisation très extrême. Et ça mène évidemment à une extinction. Il y a beaucoup de choses qui disparaissent. Et c'était d'ailleurs intéressant que pendant le lockdown, une des premières choses que j'ai revisitées, c'est cette idée que j'ai commencé à écrire des lettres à main, puisque depuis des années, j'ai regretté de ne plus recevoir des lettres à main, parce que l'écriture à main, un peu comme la voix, nous raconte beaucoup. Et donc, inspiré aussi par Tim Ingold, l'anthropologue, qui a écrit ce magnifique livre Correspondance sur l'idée des lettres qu'il a écrites aux arbres, les lettres qu'il a écrites à différents êtres. Ces idées de mettre des mots avec la main sur le papier est différent d'un email ou d'une SMS. Donc ça, c'était un peu ma première réaction pendant le lockdown, que je me suis mis à écrire des longues lettres. Donc Glissant a dit, nous devons résister cette homogénéisation de la globalisation, mais il a aussi toujours dit qu'il y aura une contre-réaction contre cette globalisation qui nous mènera à des nouvelles formes de localisme, à des nouvelles formes de nationalisme. Et c'est quelque chose qu'on a pu très fortement expérimenter, non seulement l'année dernière, depuis des années, mais l'année dernière surtout. Et Glissant disait qu'il fallait résister ça aussi. Donc il faut trouver des modèles d'exposition, ou dans toute pratique, des modèles qui peuvent répondre à ça.
Oui, Barbara Cassin, c'est quelque chose qui vous inquiète aussi, parce que tout votre travail avant, par exemple, était de réfléchir à ces gens qui mouraient en Méditerranée, à cette question de ces migrations dont nous ne voulions pas, à cette question de la fermeture et la clôture de l'espace européen à ceux qui venaient d'ailleurs. Et là, d'un seul coup, on découvre que nous aussi, nous ne pouvons plus nous rendre nulle part, ou que pour beaucoup d'inconvénients, on peut se retrouver, parce qu'on est justement dans un pays extrêmement touché par le virus, interdit d'entrée parfois aussi. Donc c'est un renversement.
On n'en meurt pas. On meurt pas en bateau.
Bien
on
sûr.
Meurt pas dans
c'est
la mer.
C'est tout à fait évident. Mais néanmoins, ce qu'on disait à l'instant même en Ulrich Rubrist, c'est-à-dire cette question du localisme, du nationalisme qui peut ressortir de ce qui nous est arrivé. On a vu les nations se combattre ou se battre pour avoir des masques. Maintenant, pour avoir des vaccins, tout cela, c'est le fruit aussi de ce qui nous arrive depuis un an.
Oui, oui, mais le rapport entre le global et le local, ça s'appelle le glocal. C'est un mot absolument dégueulasse qu'il faut absolument inventer, parce que ça dit ce qui nous arrive. On est à la fois dans le global, hyper global, et dans le local, hyper local. Et c'est une horreur combinée.
Et là, vous pensez justement que cette question de la mondialité ou de l'usage de la pensée de Glissant, de cette idée du tout monde, cette pensée archipélique, effectivement, comme était la pensée de Glissant, et d'ailleurs, Hans-Ulrich Rubrist nous a confié un texte qui a été traduit par Rémi Baille de notre équipe sur le site, à la page de la Conversation mondiale, un texte inédit qui était écrit en anglais. Eh bien, cette pensée-là peut nous aider à réfléchir à avoir un espoir vis-à-vis de ce qui nous arrive aujourd'hui.
Oui, bien sûr. Enfin, c'est-à-dire que c'est dans cette ligne-là qu'il faut se situer, se chercher, et que les rapports entre les gens peuvent être féconds. Mais moi, j'appellerais ça un petit peu autrement, si vous voulez. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le entre, E-N-T-R-E, entre et avec. Donc, c'est pour ça que je me suis intéressée à la traduction, c'est-à-dire plutôt que une archipélisation. Du réel qui existe et qui au moins a l'immense mérite d'interdire à la fois le local et le global. Bon, le local, je m'intéresse à ce qui se passe quand on comprend pas. Et je rejoins votre première question sur l'étonnement. Qu'est-ce qui se passe quand j'entends quelque chose que je ne pige pas? Et ça commence avec une langue étrangère, évidemment. Et ça commence avec ce que j'appelle les intraduisibles, c'est-à-dire pas du tout ce qu'on traduit pas, puisqu'on n'arrête pas de les traduire, mais plutôt ce qui arrête. Et cela, c'est au fond ces cas, ces pierres d'achoppement, ces symptômes qui m'intéressent, ces symptômes de difficulté de passage, hein, qui m'intéressent quand on y séjourne, parce que c'est là qu'on apprend énormément de choses et sur soi et sur les autres.
Elles ne sont pas menacées, ces pierres d'achoppement, par ce que disait à l'instant même Hans-Ulrich Robrich, c'est-à-dire une globalisation qui, disons, arase, une globalisation qui ne veut plus justement de ces pierres d'achoppement ou qui trouve les moyens de les contourner, alors que elles sont, selon vous, extrêmement intéressantes et ce sont elles qui font le sel de la relation.
Oui, mais au fond, personne ne vous oblige à globaliser. Personne ne vous oblige à parler un anglais globiche, par exemple, qui ne ressemble à aucune vraie langue. Personne ne vous oblige à penser que parler, c'est d'abord communiquer. On peut très bien se mettre à travailler justement dans ce entre et dans ces difficultés, dans ces symptômes de difficultés que sont, ben, je sais pas moi, la différence entre la manière de dire bonjour et de dire shalom salam, ou de dire kairé en grec ancien, c'est-à-dire réjouis-toi. Bon, et c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire que au fond, ce qui m'intéresse pour lutter contre le global, le local, c'est le cas. Et c'est là où...
Presque un cas psychanalytique.
Presque un cas psychanalytique, en tout cas, oui, un cas...
Pensé par cas.
Pensé par cas et par symptôme. Et s'accrocher là à ce que on apprend à chaque fois, à ce qu'on apprend sur soi et sur les autres en même temps.
Hans-Ulrich Obrist, est-ce que ça se rapproche du travail que vous faites en tant que commissaire d'exposition? Parce qu'effectivement, chaque artiste a son propre univers. Vous les rassemblez, vous les mettez ensemble pour créer quelque chose de neuf. Mais vous voulez à chaque fois, en tant que commissaire d'exposition, que ça ne s'arrête pas. Vous voulez que, eh bien, l'exposition continue. Vous aimeriez que les expositions soient, disons, des sortes de grands matériaux qu'on peut lire et relire à chaque fois, comme on peut lire, relire ou revoir un film, par exemple.
Oui, en fait, j'étais, en parlant de l'étonnement et aussi de la surprise, j'étais très passionné aussi par le livre de Barbara Cassin, par votre livre, et surtout aussi par la référence que vous faites à Godofredo Iommi, non? Cette idée de la ville ouverte où tout est possible.
Alors, Godofredo Iommi, moi, je ne l'ai pas connu, mais Barbara Cassin l'a connu, et vous ne l'avez peut-être pas connu, mais vous le citez souvent, en l'occurrence, Hans-Ulrich Obrist, c'est quelqu'un qui avait fondé une maison, une cité, Ciudad Abierta, donc une
ville ouverte,
à Valparaiso, avec une école d'architecture de Valparaiso, et dont la devise, c'était « à chacun selon ses désirs », c'est cela?
Oui, voilà. C'était au-delà de « à chacun selon ses besoins ». ». C'était « oui, à chacun selon ses désirs », mais je ne sais même pas si c'était une devise, parce que justement, il n'y avait pas vraiment
de devise. Il n'y avait pas de devise.
Voilà. Mais au moins, tout était possible, et il était aussi légitime de demander un peu de sous pour s'acheter un nouveau chapeau que pour acheter, je ne sais pas moi, un banc public.
Et cela, pour vous, Hans-Ulrich Obrist, une disposition d'esprit comme celle-ci, un projet comme celui-ci, correspond justement à ce que vous aimeriez voir affleurer dans le présent?
Oui, je pense que c'est un moment où c'est intéressant de penser à des projets de nouvelles institutions. Comme Glisson d'ailleurs, il avait toujours pensé à... Il avait son école à Martinique, mais il avait pensé à fonder un musée. Il voulait fonder un musée suivant le modèle de l'archipel, puisque pour lui, l'archipel était très important, puisque c'est sur ces îles, en fait, où la créolisation, le blend des cultures a été réalisé, puisque les continents, ils refusent le mixing, tandis que la pensée archipel rend possible que ni l'identité d'une personne ou que la collective identité sont fixées et établies une fois pour tous. Et donc, par rapport à ça, Glisson avait imaginé une institution qui pourrait fonctionner comme un tel archipel, et c'est un projet non réalisé qu'il voulait réaliser sur Martinique. Et je pense que c'est très intéressant aujourd'hui comment on peut s'inspirer pour une institution d'art de ça.
Oui. Et moi, ce qui me paraît très, très intéressant dans ce rapport-là et dans la manière dont vous parlez des expositions que vous faites et dont vous les faites, c'est que c'est du geste. Voilà. Et je pense que la ville ouverte, c'était un geste. Et moi, quand j'essaye de faire une exposition, j'en ai fait pas beaucoup, je suis pas mon métier.
Babel en particulier.
Après Babel, traduire au Mucem. Mais je l'ai faite à peu près comme j'ai fait le dictionnaire des intraduisibles. C'est-à-dire que je l'ai fait comme un geste qui peut se transformer aussi. C'est-à-dire que maintenant, après, je l'ai refaite, alors de manière bien plus BCBG à la Fondation Bodmer à Genève, mais maintenant, je devrais être en train de la faire à Buenos Aires, à la Cité de l'Immigration. Ça devrait la transformer complètement. Ça s'appelle encore comme ça, mais ça n'a plus rien à voir. Il n'y a plus un seul objet qui soit le même. Ce qui est le même, c'est le geste. Et dans le dictionnaire des intraduisibles, il a été traduit, ce dictionnaire fou. Il a été traduit, c'est-à-dire réinventé, dans une dizaine de langues. Et à chaque fois, évidemment, on le refait à neuf. Donc, ce qui me paraît vraiment important, c'est ce que j'ai compris avec Godofredo Yomi, avec La Ville Ouverte, c'est qu'il s'agissait de performance, de geste, mais de performance dans le meilleur sens du terme, c'est-à-dire quand dire, c'est vraiment faire.
Oui, parce que vous n'aimez pas, d'une certaine façon, qu'on mette un point final, vous-même, Barbara Cassin, c'est ce que vous ne cessez de dire dans Le Bonheur, ça dent douce à la mort, parce qu'il y a toujours cette question de la vie qui est plus importante que le reste. Mais justement, là, on a mis un coup d'arrêt, en tous les cas, avec cette crise de la Covid. Alors, on sait que ça pourra redémarrer, que ça va peut-être redémarrer brièvement, mais vous qui vous placez toujours, et vous le dites avec votre prénom, du côté des barbares, c'est-à-dire du côté de la limite, c'est-à-dire du côté de ce qui est le plus près de l'extrême des Grecs, par exemple, c'est-à-dire ce qui est le barbare. Ben là, la question des limites, elles ont été reposées alors qu'on faisait semblant de ne plus les voir. On se disait, nous vivons dans un monde sans limites. En tout cas, quand on habitait en Europe occidentale ou quand on habitait aux États-Unis, on pouvait penser que le monde était sans limite. Et maintenant, on s'aperçoit que ça n'est pas tout à fait vrai.
Dans les deux cas, disons avant la Covid et pendant la Covid, au fond, ce qu'on a vu, c'était que le monde était quand même un espace déterminé, clos.
Oui.
Et avant aussi, quand on se balade d'un bout du globe à l'autre, comme ce que fait Ulrich Obrist très souvent, ce que nous faisions l'un comme l'autre, chacun à notre dans notre domaine, le monde se parcourait, donc était un espace clos, puisque nos voyages en dessinaient les limites. C'est plutôt le creusement intérieur de ce monde qui n'existe plus. C'est-à-dire que, je dirais que la catastrophe étant mondiale, elle n'est plus singularisée par endroit.
Par espace.
Par espace. C'est les catastrophes singulières qui sont importantes. Voilà.
Et évidemment, c'est ce qui nous mobilisait quand à l'autre bout du monde, une catastrophe nous disait « Ah, quelle catastrophe !» Mais là, d'un seul coup, la catastrophe, nous la partageons avec le monde entier.
La pandémie.
Oui. Et oui, évidemment, en grec, ça veut dire tout. Et en l'occurrence, de votre côté, Hans-Ulrich Obrist, vous avez vécu cela comment, cette limite mise à ce qui était auparavant une possibilité ouverte pour le commissaire d'exposition que vous étiez. Vous nous disiez à l'instant, j'ai repris la plume, mais pour un travail comme le vôtre, aller voir des œuvres par ceux qui les font dans l'endroit où ils les font, ça n'est plus possible momentanément.
Non, j'ai continué à tous les jours de faire les visites d'atelier et je les fais virtuellement. Ce n'est pas la même chose, mais ça me permet quand même de continuer à faire la recherche. Mais une chose qui est intéressante, et c'est pour cette raison que j'étais aussi... Quand j'ai lu sur vos maisons de la sagesse, intéressé par cette idée que c'est un projet long terme, non? C'est un projet qui, c'est pas juste une exposition. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé pendant toute l'année 2020, qui en fait, qu'il y a beaucoup de projets d'artistes qui vont maintenant au-delà de cette idée de l'événement. Tandis qu'avant, On était beaucoup dans cette idée d'une exposition, c'était l'idée d'une exposition à l'autre. Maintenant, les artistes ont des projets, c'est plus lié à la, peut-être à la longue durée même de Fernand Braudel d'une certaine façon. Et il y a d'ailleurs un livre intéressant de Roman Krajarnik qui écrit comment être un bon ancêtre sur cette idée de la pensée de cathédrale, une humilité face au temps profond. Il appelle ça legacy mindset. Aussi une justice intergénérationnelle et un holistic forecasting. Et il pense à cette idée d'un projet qui peut être comme un living organism. Je ne sais pas comment on dirait en français, un organisme vivant.
Oui, oui. Oui.
C'est un projet comme un organisme vivant. Et par exemple, à la Serpentine, on a commencé le projet Back to Earth. On a, parce qu'évidemment, la crise écologique, dont on a moins parlé en 2020 à cause de Covid, s'aggrave de plus en plus. Et je pense qu'il y a cette opportunité aujourd'hui, cette nécessité ou cette urgence d'être en communion avec notre environnement, opposé à la séparation colonialiste de l'environnement. Et je pense que cette idée est vraiment au centre de ce qu'on a fait avec Back to Earth, où on a invité
50 artistes.
50 artistes pour notre 50e anniversaire à faire des campagnes écologiques. Et donc, il y aura à un certain moment une présentation de ces campagnes, mais c'est des projets qui vont continuer pendant 5, 10, 20 ans. Et c'est pour cette raison que j'étais très intéressé, Barbara, quand j'ai lu, j'ai vu votre TED Talk, que en fait, l'exposition à Marseille, c'était pas juste un événement, c'est un long-term projet que vous avez, non?
Oui, on va en discuter dans un instant, car il est 18h42 sur France Culture. Vous écoutez Le Ton d'Ilva, l'émission spéciale du vendredi, c'est-à-dire la conversation mondiale qui fait dialoguer aujourd'hui Hans-Ulrich Obrist, qu'on vient d'entendre, et Barbara Cassin.
A global conversation.
Global Serbie.
Una conversación global.
Una conversación mundial.
Una conversación mundial.
Ule de la vie ou roule yadel.
France Culture.
Wart en Irkash.
Alors, Barbara Cassin, que sont ces maisons de la sagesse, votre projet que vous aimeriez voir aboutir, qui est lancé déjà depuis quelques années, et qui sont des espaces de traduction, de rencontres mobiles qui se déplacent et qui permettent justement de réfléchir à cette question de comment les cultures se croisent, se comprennent et se comprennent moins.
Oui, c'est du très long terme en effet. C'est vrai que c'est un temps... au fond, la philologie m'a appris la lenteur. Hein. Donc c'est un très long terme. En fait, les maisons de la sagesse traduire renvoie avec ce syntagme maisons de la sagesse au Bayt al-Hikma de Bagdad où les différentes les différentes langues en même temps que les différents arts, les différentes sciences, etc. se passaient les unes dans les autres et se croisaient et s'augmentaient les unes par les autres. C'était intergénérationnel, interscientifique. Il pouvait y avoir un observatoire et un hôpital en même temps que une zone où il n'y avait que des traducteurs qui travaillaient hein, et qui faisaient passer du grec.
Ça pouvait ressembler à une université, on pourrait dire.
Oui, oui.
Mais
oui,
sans l'enseignement qu'il y avait auparavant.
Il pouvait y avoir aussi des cours, mais bon, ça ressemblait aussi à un caravansérail. Et il y avait surtout le passage d'une tradition à l'autre, c'est-à-dire une création. Dans le passage, dans la transmission. C'était ça, c'était des... Bon. Et alors, nous, ce qu'on a essayé de créer, d'ailleurs, on fait un livre qui va sortir, là, en mars, chez Bayard, qui s'appellera Maison de la Sagesse traduire, Entrer avec, le sous-titre. On explique quels sont les dispositifs. Au fond, ça n'a ni porte ni fenêtre, nos maisons, à nous. C'est vide. Sauf que c'est plein de dispositifs. Il y en a trois. Il y en a un premier qui sert à accueillir. Donc, quand les gens arrivent, ils remplissent des formulaires. Et ces formulaires, ça a l'air très simple. Quand on vous demande nom, prénom, date de naissance, c'est impossible.
Parce que c'est déjà gros, une traduction.
Mais c'est gros de toute notre tradition administrative. Et ça se heurte à d'autres noms, traditions de même nature. Donc, nom, prénom, moi j'ai expérimenté avec en faisant l'exposition au MUCEM, à quel point c'était compliqué, à quel point c'était des mots, non pas des mots qui manquaient, on peut toujours traduire le mot nom et le nom, prénom et le mot prénom, mais pour le dire, et la date de naissance pour la dire, mais voyons, là, ça implique un énorme boulot, et un énorme boulot de mise en rapport d'un hôte avec un hôte.
Il suffit d'ailleurs d'avoir déjà passer l'Atlantique pour aller aux États-Unis, pour savoir que quand on nous demande si on appartient à une organisation terroriste, par exemple, c'est assez compliqué parce que qu'est-ce qu'on répond ?
Oui, je suis un terroriste à moi tout seul.
Bon, voilà.
Donc voilà. Donc ça s'appelle les glossaires de l'administration française. Et on travaille là-dessus. Et c'est évidemment un projet de long terme pour lequel je suis formidablement heureuse d'avoir l'aide du ministère de l'Intérieur. J'aurais jamais cru que j'aurais pu travailler comme ça avec le ministère. Mais c'est magnifique. Bon, voilà. Ça, c'est un premier dispositif, le dispositif de l'accueil. Ensuite, on a un dispositif qui, là, parlera peut-être encore plus, je crois, en résonance avec ce que fait Hans Ulrich, qui est des banques-musées. C'est-à-dire changer l'idée de banque, changer l'idée de musée. Comment ? Eh bien, en mettant ensemble dans un Lego de base un objet avec son récit, un projet et un microcrédit. Et en profitant de cela pour faire en quelque sorte un accompagnement d'insertion. Un mot horrible, insertion. Mais c'est quand même de ça dont il s'agit en gros. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a rempli ces questionnaires, qu'est-ce qu'on fait ? Ces questionnaires qu'on ne pouvait pas remplir, ces questionnaires administratifs, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on réfléchit aux objets qu'on peut avoir avec leur récit. C'est-à-dire qu'on on fait en sorte une coupe de la société telle qu'elle devient. Et ça, on le montre. Donc, changer l'idée de banque, changer l'idée de musée. C'est un truc vraiment assez violent et assez passionnant et en même temps assez doux, parce qu'il n'y a rien de plus simple que d'apporter un objet avec un récit et de faire en sorte que le récit ait lui-même une valeur. C'est une valeur non marchande, pas plus que l'objet n'a besoin d'avoir une valeur marchande, mais c'est cet ensemble qui a une valeur, disons, sociologiquement marchande. Voilà. Et pas seulement sociologiquement, mais aussi artistiquement. Et la troisième, c'est bien pire. La troisième, c'est un dictionnaire des intraduisibles des trois monothéismes. Comment on dit Dieu dans la Torah, dans la Bible, dans le Coran ? Comment on dit l'autre, etc. Et moyennant quoi, essayons de défaire à la racine les fondamentalismes.
Hans-Ulrich Obrist, vous dites ça peut m'intéresser, en tout cas en tant qu'organisateur d'exposition, que de voir qu'une philologue, philosophe, académicienne française, qu'est Barbara Cassin, réfléchisse de cette manière à la manière justement de transcrire, parce que c'est aussi une manière de transcrire son savoir, ses connaissances, et de le transmettre au plus grand nombre à l'intérieur, par rapport à ces maisons de la sagesse traduire.
Ah oui, absolument, et je pense que c'est toujours par rapport aux expositions. Moi, j'étais très inspiré par les immatériaux de Lyotard, d'ailleurs, toute la génération de mes artistes.
Alors, il faut rappeler, c'était au Centre Beaubourg, une extraordinaire exposition, je crois, à la fin des années 80 ou au début des années 90, effectivement, dont le commissaire était Jean-François Lyotard, qui, d'une certaine façon, prévoyait ce qui est en train de nous arriver, d'une certaine façon. Cette question des immatériaux, de l'immatérialité, était au centre de son travail.
Exactement, et c'était d'une très grande influence sur beaucoup d'artistes. On a depuis longtemps, avec Philippe Arénaud, ce projet de revisiter cette exposition. Mais plus récemment, il y a par exemple aussi l'expo de Laboratorium qu'on a fait en 1999 à Anvers. On a invité Bruno Latour à faire des tabletop experiments, des expériments performatifs avec la science, entre la science et l'art. Et Bruno a trouvé ça intéressant et après a décidé de faire plusieurs expositions à CKM. Donc moi je trouve ça extrêmement intéressant. Justement le curating inattendu, on peut dire ça en français, le curating.
Ouais.
Et bien, oui, le curating inattendu d'une certaine façon.
Le commissariat d'exposition, même si vous n'aimez pas le terme, le commissariat d'exposition surprenant, quoi, d'une certaine façon.
Surprenant et surtout ce qui est passionnant évidemment avec votre projet. Barbara, c'est cette idée que c'est comme une comme Glisson voulait créer son institution, c'est que quelque chose qui long terme peut évoluer. Et Glisson m'a toujours dit que des grandes parties de la société en fait vont peut-être pas voir les expositions. Il faut quand même essayer aussi de les joindre. Il faut penser à des formes alternatives d'engagement d'exposition qui peuvent aller vers les gens, non ? Et ça nous amène aussi à des expositions peut-être plus mobiles,
oui,
et d'aller au-delà des sphères plus conventionnelles,
oui,
comme l'art est expériencé. Et ça, c'est par exemple pour nous à Londres très important maintenant. On travaille avec Barking Dagenham, qui est une des communes dans la région londonienne avec le plus grand chômage. En même temps, c'est aussi très affecté par le COVID de manière très extrême. Et on travaille avec Barking Dagenham, avec le Council. D'ailleurs, Civic Curator, Amal Khalaf, est en résidence à Barking Dagenham. Elle travaille avec des artistes comme Helen Kamok, comme Rory Pilgrim, comme Sonia Boris et Ilona Saga, et la communauté locale qui ne visite pas les institutions à Londres. Donc, d'une certaine façon, ça crée une zone de contact avec beaucoup, beaucoup de gens avec là qui autrement n'avaient pas ce contact. Et ça me paraît essentiel aujourd'hui comme possibilité.
Barbara Cassin.
Oui, tout à fait d'accord. C'est même pas simplement aller vers les gens, c'est aussi faire avec eux. C'est ça la chose de ces banques culturelles ou banques musées, c'est que les gens apportent ce qu'ils ont et les récits. Bon, en même temps, et ça se fabrique avec eux. Et pour une fois, c'est un projet sud-nord, c'est-à-dire que ces banques culturelles, elles existent au Mali, par exemple. Mmh. Hein, et elles ont d'ailleurs servi à préserver aussi des objets d'art, ce qu'on appelle des objets d'art. Mais voilà, tout est possible si on le fait avec.
Mais dites donc, ça remet en cause une idée que vous n'aimez pas trop, c'est l'idée d'universel occidental, par exemple. Là, d'un seul coup, en faisant cela, vous faites exploser l'idée d'universel.
Oui.
On parle de la question de l'univers a-t-il rétréci, mais on avait longtemps pensé que l'univers était gouverné par des catégories, dont vous êtes d'ailleurs plus ou moins la spécialiste, puisque ce sont des catégories qui remontent souvent à la Grèce antique et à Aristote, qui étaient des catégories universel, on s'aperçoit que ça n'est pas vrai et que vous participez justement au dynamitage de ces catégories, Barbara Cassin.
Et oui, parce que l'universel, c'est toujours l'universel de quelqu'un. Vous avez tout à fait raison de dire que l'universel sur lequel on vit le plus couramment, c'est l'universel grec. Bon, et justement, vous disiez au début, vous êtes quand même plutôt barbare, aux limites. Ouais. Oui, je suis barbare. C'est-à-dire que c'est du dehors qu'on voit. Où c'est sur le bord qu'on voit, qu'on peut juger l'universel.
On voit le centre.
Oui, qu'on peut juger de l'universel et montrer que, mais il n'est pas si universel que ça, c'est l'universel de. Bon, et est-ce que c'est le meilleur des universels? Est-ce que, en tout cas, on enlève le grand U majuscule comme on enlève le grand V de vérité. Et on est là dans un plus universel pour. Et ça sert.
C'est plutôt vrai. Vous
c'est plutôt
bien.
Vrai.
C'est plutôt vrai.
Voilà.
C'est plutôt moins vrai. Tout cela.
Voilà.
Ça. Et donc.
Et on fait assez d'universel pour, assez de vérité pour. Voilà. Pour ce qu'on veut faire.
Hans-Ulrich Obrist.
Mais ça nous ramène à Glissant, puisque lors de son 80e anniversaire, Edouard Glissant a fait un point qu'il voulait absolument que je rencontre Mantia Diawara. Et depuis, on est très amis et Mantia est un grand artiste, cinéaste, qui d'ailleurs a un magnifique projet écologique à Mali. Il fait partie de notre projet à la Serpentine, Back to Earth. Et Mantia a écrit beaucoup sur la poésie de la relation de Glissant. Et justement, l'indispensabilité de l'impératif, non, de penser avec le monde et de marcher contre les vérités universelles, puisqu'ils cachent leur propre particularité en violemment attaquant d'autres particularité. C'est pour cette raison que Glissant nous dit que la pensée occidentale, qui est obsédée par son image, projette son image sur le monde comme naturel et universel, et il oppose à ça l'archipel. Ce que vous dites me paraît très connecté à Glissant.
Oui.
Tout à fait.
Oui. Et cela, justement, évidemment, ça pourrait, être le fruit malheureux de la crise que nous sommes en train de vivre. C'est le retour sur le local, on en parlait tout à l'heure, le retour sur le national, parfois très crispé. On a vu ce qui s'est passé cette semaine à Washington, par exemple. Tout cela, ça n'est pas l'ouverture, ça n'est pas ce « et » que vous voulez toujours utiliser, Barbara Cassin, c'est-à-dire « et ceci et cela » et pas simplement l'exclusivité de l'un.
Oui. Absolument, mais ce qu'il y a de magnifique dans Glissant et dans la notion d'archipel, c'est que ça commence par la relation, ça commence par le pluriel et par le divers. C'est bien comme ça qu'il faut commencer. Si on commence par l'un, on n'arrivera jamais au divers.
Et vous pensez effectivement qu'on peut, Hans-Ulrich Obrist, sortir par le haut de cette crise. Quand je dis par le haut, c'est sans guerre, sans confrontation, sans brandissement des armes des uns contre les autres, sans exacerbation de la haine de l'autre, par exemple. Est-ce que c'est possible selon vous, ou est-ce que, au bout du compte, le chemin vers lequel ça nous conduit est beaucoup moins optimiste que celui-là?
Mais je pense que les artistes nous donnent l'espoir, et Gerhard Richter m'a toujours dit que l'art est la plus haute forme d'espoir. L'autre jour, Edel Adnan, l'artiste et poète à Paris, m'a dit que le monde a besoin de l'ensemble et non de la séparation, de l'amour et non de la suspicion, d'un futur commun et non pas de l'isolation. Et je pense que c'est ça la nécessité aujourd'hui, et la possibilité de l'émergence de nouvelles formes d'identification et de formation, qui remplace les vieux modèles universalisants de la filiation et des nationalismes et de la pensée continentale.
Barbara Cassin.
J'aimerais bien que ça soit vrai, c'est tout.
Il y a autre chose dont on n'a pas parlé, c'est qu'on se parle avec un masque sur le visage. Qu'est-ce que ça change quand on est comme vous, on a travaillé aussi longtemps sur la question de la philosophie grecque, du regard porté sur l'autre, du visage de l'autre, etc. Pas simplement en se replongeant aussi dans l'œuvre de Lévinas, que de ne plus voir son visage ces temps-ci. Est-ce que vous pensez que cela, ça change la relation et ça rétrécit le monde, comme on le dit depuis le début de cette émission, ou pas?
Je sais pas. Ça... En tout cas, on voit plus les rides sur le front, puisqu'on voit que les fronts.
Et on ne voit plus les bouches et on ne voit plus les nez non plus.
On voit à peine les yeux, parce que quand par hasard ils ont des lunettes, il y a de la buée.
c'est ce qui m'arrive exactement à ce moment-là, effectivement, et ça n'est pas très agréable. Hans Ulrich Obrist, effectivement, le visage, que ce soit celui de Barbara Cassin, enfant, sur le livre Le Bonheur, sa dent douce à la mort, peint par sa mère, ou le visage, évidemment, qui est quelque chose qui court tout au long de l'art, pas simplement occidental, eh bien là, ces temps-ci, il est masqué, ce visage. Ça change quelque chose pour l'amateur et le connaisseur d'art que vous êtes?
Oui, évidemment, c'est pas le cas avec les zooms, mais avec les zooms, ça remplace pas la rencontre. C'est pour cette raison que je dis toujours que c'est remote rencontre, c'est des préludes pour que après on peut se rencontrer de nouveau.
En plus, on est moche avec les zooms.
Et ça compte beaucoup.
Ah oui.
Parce que quand on est spécialiste du kalos kagatos comme vous, Barbara Cassin, on se dit, si on est moche, eh bien, on n'est pas bien non plus à l'intérieur. Et c'est notre intérieur qui en est perverti d'une certaine façon.
Il en souffre.
Merci à tous les deux. Merci à vous, Hans Ulrich Obrist. Je rappelle donc que vous nous avez confié un texte qui a été traduit sur le site de la Conversation mondiale, sur le site de France Culture. Vous pouvez aller à cette page pour voir ce texte, ainsi que tous les autres qui, depuis maintenant presque un an, sont collectés par l'équipe du Temps du Débat, justement, pour pouvoir permettre à nos discussions du vendredi d'être encore plus riches. Merci à vous, Barbara Cassin, pour votre très beau livre que je conseille évidemment, et je peux conseiller aussi l'entretien que vous avez donné à Marie Richeux dans Par les temps qui courent, qui est sur le site de France Culture, un très bel entretien il y a quelques jours. C'est votre livre, c'est Le Bonheur, sa dent douce à la mort. C'est une citation de Rimbaud, c'est ça?
C'est ça.
Et c'est une autobiographie philosophique que je conseille à tout le monde, parue chez Fayard. Et puis évidemment, j'imagine que vous nous conseillez la lecture d'Édouard Glissant tous les jours comme vous, Hans Ulrich Obrist.
Oui, un rituel quotidien.
Un rituel quotidien. Bien, on va s'y mettre. Et d'ailleurs, à propos d'Édouard Glissant, vous pouvez écouter toute une vie sur France Culture qui a été produit par Antoine Tricot. Un très beau toute une vie qui revient justement sur l'œuvre d'Édouard Glissant. C'était il y a 3 semaines ou 1 mois sur l'œuvre sur France Culture. Vous pouvez aller sur le site, bien évidemment. C'était le temps du débat, Conversation mondiale. Chloé Cambrelin, Rémi Baille, Fanny Richet, Hugo Boursier, Iman Gilles, Clément Daté et Alexandre Manzanares à la réalisation. Eh bien, évidemment, la semaine prochaine, nous serons, évidemment, comme tous les jours, ici, dès lundi, mais dès demain, Raphaël Bourgois dans le temps du débat du samedi à 18h10, et posera la question de restructuration d'entreprise. Le Covid n'est-il qu'un alibi?